Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lis des livres sur CFM, votre rendez-vous littéraire du samedi à 18h et en rediffusion le mardi à 12h35. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur le site de CFM. Donc bonjour 2016 aussi. On vous souhaite à tous une très très bonne année à l'écoute de CFM avec la librairie La Folle Avoine et des livres que vous pourrez noter sur la liste des choses qui ajoutent du plaisir à la vie. Monique à côté de moi ne me contredira pas. Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Et Joël de la librairie La Folle Avoine. Bonjour Joël.
Bonjour Fred.
Aujourd'hui, on se consacre entièrement à Pénélope Bagieux. Une jeune femme née en 1982 à Paris. Elle est issue de l'École nationale supérieure des arts décoratifs où elle a étudié le cinéma d'animation. Elle est bien ancrée dans son époque, cette jeune demoiselle, et elle a commencé en 2007 par un blog, tout un programme, Ma vie est tout à fait fascinante, et elle dessine les aventures de Joséphine qui la font connaître au grand public. Elle a écrit son premier récit qui s'appelle Cadavres exquis aux éditions Delcourt Mirage. Une rencontre entre une jeune femme perdue dans une vie de couple sans amour et un job d'hôtesse médiocre et un écrivain qui vit sa célébrité en se faisant passer pour mort. Donc ça lui a valu le prix SNCF au Festival d'Angoulême 2011 et le prix BD du meilleur album d'humour, parce qu'une des caractéristiques essentielles de Pénélope Bagieux, c'est l'humour. C'est l'humour mais teinté d'une profondeur indéniable, et elle a enchaîné par diverses choses, dont des albums Joséphine, qui, je pense, sont assez connus du grand public. Et elle a aussi écrit avec Boulet pour le scénario. Elle a fait les dessins. Une autre BD qui s'appelle La Page Blanche, qui est peut-être presque plus grave que Cadavres exquis. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme en quête d'identité. Et c'est une BD qui nous entraîne assez loin dans la réflexion. Moi, j'ai trouvé c'était vraiment intéressant sur cette génération là des 25-30 ans, et qui percute aussi pour les générations d'après d'ailleurs, parce que je pense que c'est un auteur qui parle de manière assez universelle. Et là, cette année, elle a encore affiné son écriture, parce qu'elle n'est pas que dessinatrice. Son dessin parle et écrit, on va dire. Et elle a publié California Dreamin', dont le refrain est forcément tombé dans vos oreilles au moins une fois dans votre vie. C'est un tube qui est sorti aux États-Unis en 1965. Je ne vais pas vous le chanter, mais on vous le passera tout à l'heure. Cette BD dont Pénélope Bagieux est l'auteur des dessins et du scénario retrace la vie de Cass Elliot, qui est une figure charismatique du groupe The Mamas and the Papas. Bon, Cass Elliot est morte jeune, elle est morte à 32 ans d'une crise cardiaque, mais durant sa courte vie, ça a été un personnage hors norme, tant pour son physique que pour sa voix. Pénélope Bagieux, elle trace à coups de crayon en noir et blanc, avec beaucoup de... Enfin, c'est vraiment des traits lancés à la main. Elle a fait ses cases aussi à la main. Et elle retrace l'humour du personnage. Et elle a su, au détour des pages, trouver la profondeur et le désespoir de cette dévoreuse de vie. On peut dire que Cass Elliot, elle avait faim, dans tous les sens du terme, puisqu'elle a passé sa vie à manger, mais aussi à dévorer la vie. Les gens qui l'ont suivie en ont fait les frais, mais aussi en ont bénéficié, parce qu'elle les a entraînés avec une énergie optimiste jusqu'aux îles Vierges, on peut dire, mais aussi jusqu'au succès. Donc, quand on suit Cass Elliot, on est happé et dévoré. C'est une jeune fille qui doute de tout, mais qui n'a peur de rien, on peut dire, en fait. C'est ça, elle est sûre de rien, mais elle est tellement peu sûre que finalement elle fonce. Et voilà, Pénélope Bagieux nous a fait un roman graphique, comme ça s'appelle à l'heure actuelle, hein, qui est quand même assez conséquent puisque il fait 272 pages. Et Monique, comme moi, a trouvé que les dessins étaient vraiment fabuleux. Il y a que la couverture qui présente des couleurs.
Voilà, exactement. La différence par rapport aux deux précédentes BD dont tu as parlé,
Effectivement, là, elle ne travaille que au crayon et que en noir et blanc. Et ça change beaucoup la donne et l'atmosphère. Donc ses dessins sont vraiment remarquables. Et puis elle joue. Moi, j'ai trouvé qu'elle jouait beaucoup avec la mise en page aussi. C'est tantôt en pleine page, c'est tantôt dans des petites cases, tantôt ça déborde. Il y a au milieu du roman, puisque je pense qu'on peut dire roman plus que BD, hein. Un moment où ils sont tous là, le groupe des papas and the mamas un peu partis. Ils ont pas fumé que des cigarettes et bu de l'eau minérale, on va dire. Hein. Et elle a essayé de traduire ça de façon assez remarquable, quoi. Là, moi, je trouve ça, c'est un tourbillon, là. C'est vraiment très bien fait. Et en plus, elle a l'art de poser des toutes petites choses pour faire comprendre, dans le contexte actuel de l'époque, des choses hyper importantes, comme par exemple l'assassinat de John Kennedy. Il y a 2-3 images, sans texte absolument. Et effectivement, au premier coup d'œil, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Et effectivement, on repère ça parce qu'elle a repris la photo qui a traversé la planète de Jackie Kennedy avec son tailleur, je crois qu'il était rose, son tailleur rose, son petit chapeau qui s'allonge sur le derrière de la voiture dans laquelle son mari est en train de mourir, en fait.
Et c'est des gens qui sont devant une vitrine et les gens pleurent devant la vitrine en train de regarder un écran de télé à travers une vitre.
Voilà, et elle a saisi ça vraiment en reprenant cette photo hyper connue. Et pareil, un autre moment clé de cette période-là, c'est au moment où la guerre avec le Vietnam va se déclarer. Là, c'est pareil, elle a pris le visage des gens dans la rue, complètement atterrée, quand la nouvelle arrive, et puis l'angoisse qui prend tout le monde, et en particulier les jeunes de cette époque-là. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un portrait intelligent, vraiment, et très délicat.
Et bienveillant.
Cette femme, voilà, comme tu dis, qui était haut en couleur. Haute en couleur. Et très, très attachante. Et elle le dit, d'ailleurs, parce que j'ai écouté plusieurs interviews qu'elle a données. Et Pénélope Bagieux dit que ma Cass, c'est-à-dire Cass Elliot, avec la manière dont elle l'a dessinée, est sûrement différente de la réalité. Mais pour moi, il fallait que son visage en dessin reflète à la fois son exubérance et sa sensibilité. Et je trouve que ça, c'est un travail vraiment remarquable, quoi. Et effectivement, le texte, j'ai presque envie de dire, le texte s'écrit plus dans les images que dans les quelques phrases qui sont...
Oui, puis c'est des images vraiment frappantes et marquantes et qui très signifiantes. Et on peut peut-être aussi parler des mamas and the papas pour ceux qui auraient quelques lacunes sur le sujet.
En fait, c'est un groupe de rock américain assez mythique des années 60, mais en fait qui a duré très peu de temps puisque ils se sont produits en concert et ont enregistré des albums entre 1965 et 1968. Donc voilà, c'était le groupe le plus connu du mouvement hippie et des Flower Power.
Le mieux, c'est d'écouter ce que tout le monde a déjà entendu au moins une fois, je pense.
Voilà. Et donc,
California Dreaming. Après ce California Dreaming, on va rester au chaud avec Joël qui va nous parler de Ludovic Massé, un écrivain catalan. S'il n'avait pas lui un rêve californien ni de devenir chanteur, il voulait devenir écrivain, un domaine fermé non pas à cause de son physique lui, mais à cause de ses origines sociales, je crois.
Oui, ça va pas être facile de faire aimer Ludovic Massé après tout ça, hein, Ludovic Massé qui aurait eu 116 ans dans ce mois de janvier là, parce qu'il était né en 1900 pile, janvier 7 janvier 1900. Il était fils d'instituteur. Et il est devenu instituteur. Hein, là, voilà, il était né à Évols, en Catalogne française. Il est mort à Perpignan. Ses grands voyages, c'est Céré, Perpignan. Il a été à Toulouse faire l'armée, mais il n'a pas bougé. Évidemment, il a été quelques fois à Paris. Donc, vous faire aimer Ludovic Massé, c'est la littérature qui peut le permettre, parce que c'est vrai que son idée, c'était d'écrire. Et très vite, dès qu'il a été instituteur, installé dans ce petit village à côté de Céret, il a été correspondant de La Dépêche, donc il a fait des chroniques, les chroniques de La Dépêche, et surtout il a commencé à écrire des contes à la manière un peu de Jules Renard, des contes sur les animaux familiers que j'ai malheureusement pas lu, parce que son œuvre est difficile à trouver, j'ai quelques antiquités. Mais il y a plus grand chose de disponible. Et il a fait surtout une fable dont je vous parlerai la semaine prochaine, une fable qui a rien à envier à La Ferme des Animaux et qui s'appelle Pip et la Liberté. Je parlerai du Massé engagé la semaine prochaine. Donc Massé écrit ses contes. Il envoie son premier conte qui s'appellera Galdaras, qui sera publié sous le titre Galdaras, qui est colère dans la montagne. Il envoie Henri Poulaille. Il faudra qu'un jour je vous parle d'Henri Poulaille, parce que ça a été le grand fédérateur de tous ces écrivains, aussi bien Ramus que Guillou que Ragon par la suite, pour faire émerger cette littérature que lui appelait littérature prolétarienne. Ludovic Massé, lui, il se reconnaissait pas dans ces termes-là, prolétarien, anarchiste, libertaire. Il y avait un peu de tout ça dans son œuvre, mais c'est avant tout un écrivain, c'est avant tout de la littérature. Et c'est vrai que quand on lit Galdaras, sa première longue nouvelle, ou Le Mas des Oubelles, qui a été publié un petit peu plus tard, ce sont vraiment des ouvrages de littérature, et Poulaille lui reproche d'être un peu trop poète. Mmh. Et c'est vrai qu'il fait parler la nature est narrative, il trouve des métaphores originales, on a l'impression que ça n'a jamais été écrit avant, et ça peut plus être écrit après, mais on voit le paysage par sa façon qu'il a d'en parler, ses montagnes qui, bon, je m'amuserai pas à les reprendre, il faut les citer exactement, et tout ça dans ce pays qui nous fait découvrir. Alors ça, c'est premiers livres qui sont effectivement publiés. Il est bien accueilli. Le Mas des Oubelles étant en jeu pour le Goncourt en 1933 avec La Condition humaine de Malraux. Excusez du peu, hein, c'est bon. Il n'est pas passé, mais il était en bonne place. Et un peu plus tard, donc Poulaille le force un petit peu à écrire. Il fait une trilogie, sur les Grégoire, qui est un peu un livre d'autofiction, c'est-à-dire autobiographie, où il met en scène sa famille en trois volumes. Et le troisième volume, qui n'a pas paru dans la série des Grégoire, ce sera Le Vin pur. Alors Le Vin pur, je ne sais pas si on peut le considérer comme un chef-d'œuvre. Il y en a d'autres dont je parlerai la semaine prochaine, qui s'appelle Le Refus, qui est encore beaucoup plus grandiose que Le Vin pur. Si on peut dire, Le Vin pur, c'est une épopée. C'est une épopée d'un jeune homme qui est né dans la montagne et qui a aucun avenir, et que finalement le seul avenir que son père va lui trouver après la mort de la mère, c'est de le mettre comme apprenti dans la vallée. Et là aussi, la nature est narrative. C'est, il va descendre dans la vallée pour trouver une issue à son enfermement. Et là, il va faire apprenti forgeron. Il va apprendre la vie, tout simplement, avec un autre forgeron qui va jouer, qui va dans les bistrots. Il va être amoureux. Il va revenir au pays. Il va avoir des problèmes avec son compagnon de travail. Finalement, la vieille tante qui était restée au pays et et qui apparemment a accumulé et va être assassiné. Il a un oncle. Alors l'oncle, c'est aussi un fil conducteur dans tout l'ouvrage. L'oncle, c'est l'oncle Anton qui travaille pas, lui, qui vit de ses chansons qu'il invente au fur et à mesure qu'il va dans les villages. Il colporte ses chansons, mais c'est des chansons. Il se dit anarchiste, donc déjà on retrouve ce que qu'aurait aimé Poulaille. L'anarchie dans le quotidien. Et donc, après cet assassinat, il va hériter de la tante, et là, il va se retrouver à la tête d'une entreprise, d'une vigne, d'une grande vigne, il va devenir vigneron. Et là, il y a des passages sur le champ de la vigne qui sont absolument extraordinaires. On voit cette vigne qui pousse un peu comme une maternité, hein, et les vendanges, c'est la cueillette, quoi, la cueillette, l'enfant qui sort. Et ça, tout ça, il nous raconte ça de façon extrêmement poétique. Heureusement qu'il a pareillé sa poésie, parce que c'est un charme qui est absolument extraordinaire. Et en même temps, dans ce récit, vont venir les problèmes des vignerons, donc les années 1900-1905, après le phylloxéra, ceux qui arrachent leurs vignes de folie, ceux qui restent encore là, et puis il y a les trafiquants, il y a ceux qui sucrent leur vin, et puis il y a les politiques qui en profitent, et lui, il est là avec son travail, il arrive à se sortir, à faire son vin, à faire sa vendange avec tout l'ensemble. Et puis arrive la révolte, et là il y a des passages de description de cette révolte à Narbonne, où Anton va tomber sur une barricade, et c'est là aussi c'est l'épopée qui s'achève dans cette immense manifestation, et c'est la fin de l'ouvrage, mais c'est pas la fin de Ludovic. Je vous dirai la suite la semaine prochaine, qui vaut aussi son pesant de lecture. Donc je vous ai proposé évidemment le 17e, qui a refusé de tirer sur la foule, puisque évidemment
le 17e régiment
évidemment dans le 17e régiment, il y avait énormément de jeunes de languedocien ou catalan, donc ils ont mis la crosse en l'air, et c'est exemplaire, je suis pas arrivé très souvent dans l'histoire militaire.
Donc le chant à la gloire du 17e.
Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave Pio Pio, chacun vos amis et vos aimes. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Comme les autres, vous aimez la France, j'en suis sûr, même vous l'aimez bien. Mais sous votre pantalon garance, vous êtes restés des citoyens. La patrie, c'est d'abord sa mère, celle qui vous a donné le sein. Il vaut mieux même aller aux galères que d'accepter d'être son assassin. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves Pio Pio, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique, vous auriez, en tirant sur nous, assassiner la République. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiner la République.
Espérons qu'un jour viendra en France où la paix, la concorde régnera. Ayons tous au cœur cette espérance que bientôt ce grand jour viendra. Vous avez jeté la première graine dans le sillon de l'humanité. La récolte sera prochaine et ce jour-là vous serez tous fêtés. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave Piu-Piu, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Aujourd'hui, nous vous avons parlé de California Dreaming de Penelope Bagieu aux éditions Gallimard. Et Joël nous a présenté Ludovic Massé suite au prochain épisode. En ce début de 2016, on vous souhaite une belle année de lecture. La lecture était ma liberté et mon réconfort, ma consolation, mon stimulant, disait Paul Auster. Donc, profitez-en, lisez. Au revoir à tous et à toutes. Merci à Mathias qui était à la technique aujourd'hui. Et à la semaine prochaine, au revoir.
Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.